Bienvenue sur Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi les outils, les méthodes et les apprentissages clés d'un entrepreneur à succès. Pour ne pas rater les prochaines, inscrivez-vous gratuitement sur www.entreprendredanslamode.com. Enfin, si vous souhaitez sponsoriser ou co-créer du contenu avec Entreprendre dans la mode, c'est possible. Là encore, rendez-vous sur le site web du podcast. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode, bienvenue dans cette série de hors-série sur l'acquisition. C'est quelque chose qu'on m'a demandé et moi aussi je suis demandeur de contenu de ce type-là. Et pour ce premier épisode, je suis avec Viviane Lipsky, vous la connaissez. Viviane, c'est la fondatrice de Brand Alchimie, elle est l'experte DNVB en France. Elle accompagne les marques à repenser leur business model dans l'économie directe au consumer et elle est l'autrice du livre DNVB, les surdoués du commerce digital que vous connaissez tous, et vous connaissez Viviane bien sûr, et elle est en train de travailler sur un nouveau projet aussi, Donut and Humans, qui va sortir ces jours-ci. Alors je sais pas, ça sera avant ce podcast ou après ce podcast, mais en tout cas elle prépare un truc qui a l'air assez cool. Tu veux nous en parler d'ailleurs, Viviane? Bonjour déjà pour commencer.
Hello, bonjour Adrien, ravi de te retrouver. Alors je pense que ça sera sorti parce que en fait le premier, là on enregistre, on va dévoiler un peu les coulisses. Là on en est jeudi, on enregistre aujourd'hui et vendredi demain matin, donc vendredi 11 février, donc 2022, hein, si vous écoutez ça dans 2 ou 3 ans, ben, ça sera super daté. Je lance Donut and Humans, qui est une chaîne YouTube qui est consacrée aux entrepreneurs business du changement positif. Donc l'idée, c'est de leur donner la parole dans un temps très long et qu'ils aient le temps d'exposer leurs solutions. Et surtout, de nous donner la patate et de se dire que, contrairement à ce que font les médias, la plupart des médias, c'est-à-dire que nous faire croire qu'il n'y a pas de solution et nos futurs, moi, je préfère un futur un peu punk où, en fait, il y a des gens qui agissent et qui sont des exemples et des nouveaux business models qu'on peut regarder et dont on peut s'inspirer. Donc, ça, c'est vraiment une quête d'inspiration et d'aspiration vers un peu plus de positif et de gaieté.
Trop bien. Trop cool. Alors aujourd'hui, la thématique, c'est l'acquisition. Et l'acquisition, il n'y a pas qu'une seule façon de faire de l'acquisition. Hein. Souvent, les entrepreneurs, quand on parle d'acquisition, ils pensent aux influenceurs et aux paid Instagram, Facebook, etc. L'idée, c'est de défricher un petit peu les différents canaux d'acquisition, d'essayer de sortir des best practices, essayer d'aller prendre des conseils. On n'a pas vraiment de plan aujourd'hui, mais en tout cas... je te laisse la parole et puis moi je vais rebondir et je vais creuser les différents points que tu vas développer.
Déjà, c'est vrai, tu as raison. Quand tu m'as dit qu'autour de toi, les marques que tu interviewais étaient en galère sur le sujet de l'acquisition, j'avoue, oui, c'est un sujet qui est préoccupant depuis les changements de politique de la RGPD, depuis Apple, etc. On va revenir là-dessus, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi je veux quand même faire une petite parenthèse pour dire que je suis ravie de pouvoir introduire ce sujet-là et la série que tu vas avoir, mais que c'est pas mon métier au quotidien. Moi, je suis pas une agence d'achat média, et que l'acquisition, je l'envisage effectivement comme un outil, mais pas forcément que sous le biais de l'acquisition payante. Et en général, quand on parle d'acquisition, on parle d'acquisition payante. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que l'acquisition, en fait, il faut la voir dans un tunnel, en fait, complet qu'on appelle le growth funnel, qui est le funnel AARRR. Donc vous pourrez aller regarder sur internet, c'est très bien expliqué, ou dans mon livre, hein, j'ai mis des pages là-dessus. Mais ça commence pas par l'acquisition, ça commence par l'awareness, c'est-à-dire que avant de se préoccuper d'acquisition, il faut déjà se préoccuper d'avoir construit une marque et d'avoir conquis la confiance. Ça commence, une marque, ça commence par la confiance. Donc si on vous connaît pas, à moins de chercher un truc hyper utilitaire, et dans ces cas-là, autant aller sur Amazon, parce qu'au moins il y a des notations et on peut comparer. Il y a assez peu de cas de figure, il y en a quelques-uns, où on commence par l'acquisition. En général, on va commencer par l'awareness, construire justement sans dépenser un rond, et consacrer des efforts plutôt à l'envie, au FOMO, à l'envie de venir. chercher une expérience qui va se répercuter et par le bouche à oreille. Même si je sais aussi qu'il y a quand même des avantages, la nuance, quand on veut lancer une marque, à très très vite la tester en acquisition payante, c'est-à-dire faire avant même d'avoir lancé quoi que ce soit, on a une idée qu'on a validée plus ou moins avec son customer discovery, on en a déjà parlé. On va faire une landing page, on va essayer justement de faire un peu d'acquisition avec un tout petit budget sur la target qu'on a, la cible qu'on aura déterminée, et on va voir si ça colle. Et à ce moment-là, une fois qu'on a trouvé effectivement un espèce de positionnement, on peut se dire, OK, bah, c'est une manière de valider une hypothèse. Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, ça peut s'envisager dans certains cas de figure. Sinon, la construction d'une marque, mais il faut quand même rappeler que ça peut en aucun cas être super rapide. Alors, j'exclus le dropshipping, hein, on est bien d'accord. On parle d'une vraie marque. Il faut que je redéfinisse dropshipping ou...
Franchement, n'hésite pas à redéfinir tous les termes un peu techniques qui te semblent un peu compliqués. C'est quoi le dropshipping ?
Donc, le dropshipping, c'est tu vas acheter sur une plateforme qui va te proposer tout un tas de produits déjà manufacturés, en général en Chine, des produits sur lesquels tu vas pouvoir mettre un logo et qui vont être expédiés depuis cette plateforme. Donc, il y en a plein Instagram, et souvent, on imagine que parfois, on les confond avec des DNVB. Donc, c'est souvent des produits très peu chers avec une forte valeur ajoutée, genre des coques de téléphone. Donc, il faut faire très attention à ça. Et là, c'est vrai que, du coup, le seul effort que la personne qui a lancé ce business ait à faire, c'est du marketing payant, en fait. Donc, il y a des tas de techniques. Il suffit d'aller dans YouTube et de taper dropshipping, marketing, acquisition. Et là, on a des vidéos à longueur de Google. Donc, ça, c'est vraiment encore une fois... on va pas parler de ça aujourd'hui. Moi, je pense que pour commencer, il faut du temps, il faut de la cohérence, il faut de la qualité et il faut aimer ses clients dès le début. J'ai beaucoup de marques qui n'aiment pas leurs clients, qui ne se préoccupent pas de leurs clients. Donc déjà, il faut les connaître. Voilà. Et c'est vrai que t'as quand même. Moi, je vois quand même des marques qui se construisent en ayant des contenus naturels de très bonne qualité, qui s'entourent d'équipes de spécialistes, donc qui payent en fait des spécialistes, des conseillers éditoriaux crédibles, par exemple dans le monde du wellness, ça peut être des spécialistes de la forme physique, de la santé, du métabolisme. Donc, en fait, ils vont investir de l'argent aussi, mais pas en payant, pour construire en fait une image de marque fiable et éduquée. Donc là, bah, en fait, le principe, c'est d'avoir le bon cadencement en fait en contenu naturel. Donc en fait, je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin, en tout cas quand tu commences, de dépenser des sommes absurdes. Il y a vraiment d'autres leviers, et ça, on en parle, je pense, assez souvent quand même. Donc j'insiste aussi sur le fait que aucune agence ne te développera ta communauté. Une agence ou un logiciel ou une API ne te développera ta communauté. Aucune agence ne t'aidera à approfondir tes valeurs en tant qu'entreprise. Et c'est pas une agence, parce que souvent on me dit oui, l'agence, on leur a donné un budget et puis finalement ils nous disent que ça marche pas, que c'est de notre faute et tout. Bah oui, parce que c'est pas à l'agence de décider de votre stratégie de contenu, du message. Et s'il n'y a pas de valeur, pas de mission ou un message très peu clair, bah, ils peuvent pas le faire à votre place. Donc déjà, je trouve que l'initiation doit se faire en interne. Et il y a suffisamment aujourd'hui, encore une fois, de contenu disponible sur YouTube ou ailleurs, ou même éducatif, hein, gratuit ou payant. Et il faut payer aussi pour se former. Donc n'hésitez pas à le faire. Ce que je dois dire aussi, c'est que ça, c'est un truc dont on parle souvent, Adrien, c'est que l'acquisition, c'est comme partir à la pêche. Si on ne connaît pas très bien ses clients, c'est comme partir à la pêche au gros avec des gros filets, puis ratisser tout ce qu'il y a dans la mer. Et on n'a pas besoin de prendre tous les poissons. Il faut prendre les poissons dont on a besoin, les poissons qu'on a envie de nourrir dans son aquarium. Mmh. Et l'acquisition, ça coûte super cher. Ça coûte 5 fois plus cher que la rétention. Moi, j'ai envie de dire, faites attention.
C'est 8 fois plus cher, je crois.
Je ne connais pas sa statistique, mais on va dire que c'est beaucoup plus cher, en tout cas. Donc, c'est bien de parler d'acquisition, mais si tout le reste, encore une fois, du tunnel ne suit pas, si on nourrit pas ces poissons via la fidélisation, via justement, bah, en fait, à chaque fois, on répète des opérations qui finalement ne sont pas très rentables, en fait. Surtout si on se focalise sur le fameux CAC, le coût d'acquisition client. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Et puis aussi, ce qu'on sait, d'ailleurs, sur la rétention, c'est que des clients qui existent déjà dépensent bien plus que les nouveaux, parce qu'ils sont déjà habitués, parce qu'ils aiment déjà vos produits, etc. Donc, je pense qu'il y a aussi, dans cette question de l'acquisition, de prendre l'habitude au moins, j'ai un peu peur d'enfoncer des portes ouvertes, mais enfin, ça fait toujours du bien de le répéter, de comprendre les comportements de vos clients, et d'améliorer en fait la communication et tout ce qui peut être fait au niveau de clients qui existent déjà pour le chouchouter et pour bien segmenter sa communication, etc. Il y a beaucoup de marques que j'accompagne quand elles viennent me voir. Elles ont parfois des campagnes d'emailing qui ne sont pas segmentées, elles ont parfois des newsletters qui ne sont que transactionnels. En fait, ça, il y a déjà beaucoup de choses à faire déjà chez vous. Je ne parle même pas d'optimiser les sites et tout. Donc, je ne vais pas faire trop de digressions. Juste pour dire que une stratégie d'acquisition, c'est un pilier dans une stratégie marketing solide. Voilà. Donc, il faut construire une stratégie marketing avec tous les piliers qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qui se passe cette année? Vous le savez, il y a effectivement c'est une année de changement vraiment incroyable, 2021. Bah, déjà la pandémie, avec tous les annonceurs qui sont sur le digital. Donc, concurrence effrénée.
De dingue.
Et d'autant plus dans la mode, hein, puisque dans la mode, il y a très peu d'éléments différenciants en fait, d'une marque à l'autre. Donc, c'est encore plus dur. Et puis surtout, il y a ce qu'on disait tout à l'heure, la mise à jour des politiques de confidentialité d'Apple. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais pour résumer, en fait, étant donné que Apple a supprimé les cookies, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Facebook et donc Instagram sont devenus aveugles. Donc, en étant aveugles, y a beaucoup de trucs qui ne marchent plus, en fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des gens bien plus compétents que moi qui peuvent expliquer, et on trouve vraiment partout des explications de ce phénomène. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? En général, il faut être plus malin. C'est pas la première fois qu'il y a des changements dans des gros acteurs, dans les grandes régies Facebook ou Google, et à chaque fois, on doit s'adapter, bien sûr. Donc moi, encore une fois, je ne fais pas d'achat média directement, j'accompagne des marques, mais j'observe ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et ceux qui ont réussi à s'adapter, comment on peut contourner, en fait. Mais quand même, pour faire court, ce qui se passait, c'est que Facebook était capable de tracer presque tout ce que les utilisateurs faisaient en ligne, parce que vous le savez, si vous avez vous-même un site marchand, vous avez forcément installé le pixel Facebook sur votre site. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand on installe le pixel? C'est-à-dire que en fait, Facebook est capable de voir qui fait quoi sur votre site, quand il rentre, quand il sort, combien de temps il reste, etc. Et ces données nourrissaient en fait sa capacité ensuite à vous fournir une publicité extrêmement ciblée. À voir qui était susceptible d'être le plus en phase avec votre offre. Je ne vais pas rentrer en discussion si c'était bien ou si c'était pas bien, mais en tout cas, c'était plus facile en fait pour Facebook de bien te servir en fait et de savoir vraiment qu'est-ce qui allait fonctionner ou pas. Et Apple a mis fin, donc au moins pour la navigation sur les iPhones, à cette possibilité. Et donc Facebook est aveugle et ne sait plus à qui vous montrer vos pubs. Ce que Facebook voit encore, c'est tout ce qui se passe sur Facebook et Instagram. Donc en 2022, si on veut jouer finement, bah, il faut jouer sur Facebook et sur Instagram, en fait, avec des tactiques qui sont assez spécifiques. Alors, ça m'arrache presque l'âme, hein, parce que moi, je suis de ceux qui disent on va pas donner de l'argent, surtout quand on est une marque éthique, un groupe qui n'est pas éthique. Bon, bref, mais on a dit qu'on rentrait pas, tu m'as demandé, donc on rentre pas dans la polémique, tu m'as demandé de l'aide sur ces sujets, je vais essayer. Alors, on voit des belles performances sur Facebook Leads Ads. Donc, tu vois ce que c'est Facebook Leads Ads ?
Non.
D'accord. Donc, tout ce qui est le lead magnet. Tu sais, c'est tout ce que tu des contenus à forte valeur ajoutée que tu vas en fait proposer, que tu proposais autrefois sur ton site. Voilà, ça existe depuis 2016. Hein, c'était tu faisais une pub avec un formulaire pré-rempli, tu pouvais télécharger depuis ton site. Donc, de quoi on parle ? On parle de webinars, de livres blancs, de guides, de checklists, de guides pour mieux choisir sa taille, etc. Donc, c'est quelque chose que le visiteur obtient d'un site en échange de ses coordonnées. Je ne sais pas si toi, tu l'as mis en place. Non ?
Non.
Bon, moi, j'encourage pas mal de mes clients à le faire. Ça peut te servir, si tu le mets sur ton site directement, ça va te servir pour ton référencement. Ça peut te servir pour ton référencement. Suivant comment tu le fais, hein, si tu fais une page par exemple dans ton blog qui va expliquer quel est le contenu qu'on peut télécharger, ben, ça peut te servir pour ton référencement, donc ça c'est pas mal. Mais aujourd'hui en fait, donc ça convertit et puis ça te permet d'obtenir des emails. Donc pour ça, jusqu'au changement, on diffusait une annonce de conversion typique. Donc, les gens voyaient ton annonce dans Instagram ou dans Facebook, on va dire Facebook pour faciliter. Et puis, Facebook, ça les aidait à optimiser. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est en fait, au lieu que les gens s'inscrivent sur ton site pour recevoir le lead magnet, il faut qu'ils le fassent directement dans Facebook.
D'accord. Okay.
Donc, ton questionnaire, tu le fais directement dans Facebook et c'est dans Facebook qu'ils vont cliquer et recevoir en fait le formulaire qui va s'ouvrir directement dans Facebook.
Okay.
Avec, tu mets les infos dont tu as besoin. Par exemple, tu veux louer, tu es un loueur de bagnole, tu vas directement mettre ton formulaire, de quelle voiture vous avez besoin, enfin vous déplacez, ou partez en vacances, à côté de quelle gare vous en aurez besoin, quel type de voiture, combien de places, etc. Donc ça, ce formulaire-là. Et du coup, il confirme sur Facebook. Facebook enregistre la conversion et du coup, ça va lui permettre de confirmer, en fait, ta cible. Qui sont les gens ? Okay. Tu vois, ça nourrit son algorithme, en fait. Okay. Tu rends service plus à Facebook, mais aussi par ricochet, en fait, ça va l'aider à comprendre qui sont tes clients, interagir avec ton annonce. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ben, en fait, toi, ils vont continuer à avoir des infos autour de ta marque, autour de ton ciblage. Et en plus, il y a des chances pour que tu payes moins cher tes pubs ensuite. Parce que, en fait, Facebook avantage les gens qui favorisent ce genre de pratique. Parce que ça lui donne de l'info et parce que ça permet de garder les gens plus longtemps sur sa plateforme.
Ok.
Versus quand tu le fais venir sur ton site, tu le fais sortir de la plateforme.
Ouais.
Ok. Ensuite, Facebook peut apprécier, c'est du retard getting d'audience chaude. Auparavant, tu peux retargeter auprès de trois cibles. Les froides, des gens qui ne te connaissent pas du tout. Ce que je ne conseille jamais, parce que vraiment, ça veut dire là, tu pêches vraiment en haute mer tous les poissons. Des gens qui te connaissent déjà, plus ou moins, donc auprès de qui tu as fait de l'awareness, et puis des audiences chaudes qui ont déjà acheté ou qui sont venus plusieurs fois sur ton site.
Ouais.
Donc, moi, je pense que c'est toujours une meilleure idée de montrer tes pubs à des gens qui savent un peu qui tu es et qui vont te recevoir un peu plus chaleureusement et qui sont toujours un peu plus contents d'en savoir un peu plus sur toi. Donc elles sont plus susceptibles d'acheter. Donc Donc, tous les gens qui sont venus sur ta page d'accueil, sur tes pages produits ou sur ton blog, ces personnes, elles sont enregistrées par Facebook, à moins que tu viennes de lancer ton site. Là, c'est plus compliqué. Par exemple, tu peux faire du retargeting de vidéos, de views, déjà. C'est plus puissant que de créer une vidéo ou deux qui donnent une... Par exemple, tu peux faire une petite vidéo avec des conseils, des tips, comment inspirer les gens. Et tu peux, il faut toujours que cette vidéo ait un lien avec ton offre, bien sûr. Par exemple, si tu es vétérinaire, tu fais une vidéo où tu vas parler des aliments sains pour les chiens, etc. Si tu es une marque de mode, tu peux faire une vidéo où tu vas dire, cette tenue, tu peux la porter différemment. Si tu vends des foulards, tu peux le nouer différemment et tu peux accessoriser tes tenues différemment. Et dire que tu vas te créer une audience, personnalisé et surtout tu vas pouvoir Facebook va pouvoir comprendre qui sont les personnes qui vont regarder plus de 3 à 10 secondes cette vidéo et quand il aura compris, tu auras encore une fois éduqué son algorithme et tu l'auras rendu un petit peu plus ouvert à qui est ta cible. Donc ça, voilà ce que tu peux faire donc du retargeting avec des vidéos de contenu à valeur ajoutée auprès de gens que tu connais déjà pour que encore une fois Facebook comprenne ça c'est la cible de cette marque.
Il y a des gens qui le font bien que tu as en tête?
J'ai pas d'exemple qui me viennent là tout de suite, mais oui, il y a des gens qui le font vraiment très bien. Ça va peut-être me revenir en cours de discussion. Il y a des marques de mode qui le font très bien. Je pense. Donc, Make My Lemonade, c'est un très bon exemple, par exemple, de quelqu'un qui a cette bonne pratique. Ils le font très bien. Donc, l'autre façon de retargeter, c'est toute personne qui s'engage avec ton profil Instagram d'une manière ou d'une autre. Tu diffuses une annonce pour quelques euros par jour, encore une fois, qui donne de la valeur, qui résonne, et que tu diffuses comme une annonce d'engagement. Donc, c'est-à-dire, c'est des vidéos sur lesquelles tu vas essayer de stimuler les commentaires, les likes et les partages. Et ça, c'est vraiment smart, pour plusieurs raisons. La première, tu peux les retargeter avec encore plus d'annonces, une fois que tu sais qui c'est. Et en plus, encore une fois, Facebook va te récompenser parce que ça leur a apporté des datas. Et donc, encore une fois, aussi des pubs moins chères. Tu peux diffuser des pubs, des annonces d'engagement qui sont vraiment basiques dès que possible. Ça va te donner de l'efficacité et de la rentabilité sur le long terme. Je dois dire que je vois encore trop de marques qui font des annonces, des ads, sous forme d'image. Non, c'est fini ça. Vidéo. On a tous compris que Facebook n'aurait vécu d'une chose, c'est de devenir TikTok. Donc vidéo. C'est fini que Instagram soit une app de partage de photos. Mais ça fait longtemps, ça fait presque 5 ans. Mais je vois qu'il y a encore des marques qui sont figées sur leur feed. Qu'est-ce qu'il faut que je mette là-dedans et qui pensent pas du tout, qui font très peu de réels. Des réels, c'est 5 à 7 par semaine. Et puis il faut même dans le fil, c'est des vidéos. C'est plus une tendance en fait, c'est la base. Donc le contenu vidéo roi, c'est YouTube. Mais YouTube, ça demande quand même de faire du montage, de la prod, etc. C'est un peu compliqué. Tout le monde n'a pas encore envie. Mais les réels, il faut y aller. Les reels, il faut y aller. Donc, qu'est-ce que c'est? Des vidéos super courtes, 15-30 secondes. Et encore une fois, il faut les utiliser pour réchauffer votre audience. Donc, c'est super simple. On peut les enregistrer directement dans l'app. On peut les éditer soi-même. On peut ajouter de la musique, des effets. Et t'as vraiment pas besoin d'être le roi de la Corée, de suivre toutes les tendances TikTok, d'ailleurs qui changent tous les jours. Les vidéos, ça renforce la confiance et l'autorité. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que, en fait, on est passé de influenceur à créateur de contenu. en fait. C'est parce que c'est eux qui ont l'autorité aujourd'hui. Donc, bon, mais toi, t'en fais des reels, t'en fais plein, non?
On en fait un petit peu, mais on n'en fait pas assez. C'est une certitude. Ce qui est terrible, on le voit bien, aujourd'hui, toutes les marques de mode sont à la peine. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vraiment maîtrisé le sujet. C'est que on est tous des amoureux de l'image, on a tous été formés dans des écoles de mode, d'art, etc. Et on adore les belles photos léchées et on est sensible à ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a des plateformes comme Instagram et TikTok qui sont l'inverse de ça. Et donc, ça fait super mal de faire des vidéos qui sont pas produites, qui sont authentiques, en fait. Et donc, tout le monde est un peu à la ramasse par rapport à ça. Et même des gens qui... Je regardais par curiosité, tu vois, des Jacquemus, des Rouges, le contenu qu'ils mettaient sur TikTok, mais ils sont à la rue, quoi. Ils ont surfé sur la dimension sur Instagram, sur la photo les 10 dernières années. Et là, maintenant qu'il faut prendre un virage, c'est compliqué. On sent que c'est complètement laborieux, quoi.
Ouais. Alors c'est vrai que dans un sens, t'as raison. Pour le fondateur de la marque, ça dégrade la marque et tous les efforts qu'on a pu faire depuis un certain temps.
Ouais.
Et pour les gens, ça crée une connivence, ça descend. En fait, ce qu'il faut voir quand moi je fais les customer discovery avec les fondateurs des marques que j'accompagne, c'est que aujourd'hui, en fait, la question de la confiance, j'insiste beaucoup là-dessus, elle se joue sur justement des marques qui descendent de leur piédestal, en fait, des marques qui se mettent au niveau, elles sont plus crédibles si elles arrivent à se mettre au niveau des consommateurs. Alors, j'entends que quand on a une image du luxe très léchée, ça peut être un peu plus compliqué psychologiquement, mais n'empêche que c'est une question d'énergie, en fait. Je pense que ce qui est attendu, c'est délivre ton message avec une énergie et une justesse et de le faire de manière... En fait... Ces médias sociaux, ça me rappelle une vieille discussion qu'on avait quand j'étais à France 2, en fait, où en fait, ce sont des médias extrêmement populaires, parce que ce sont des médias de masse. Et puis quand on dit de masse, alors là, pour le coup, c'est huge, quoi. C'est huge, c'est global, c'est à l'échelle du monde. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est que si tu es élitiste, alors ne viens pas sur un média de masse. Si tu continues à vendre à une élite, alors tu peux continuer à faire ton chemin et tu auras toujours, mais tu vas devenir super niche. En fait. Donc ça, tu peux l'envisager. Si toi, ton truc, c'est ça, de rester niche. Mais là, si tu veux faire de l'acquisition sur un média de masse, il faut quand même jouer dans la même, avec les règles du jeu.
Avec les mêmes codes.
Et oui. Et ça, moi, je me souviens, c'était toujours l'idée de, OK, est-ce qu'on doit éduquer les gens? Est-ce que le rôle... Notre rôle à France 2, c'était d'éduquer les gens, de les tirer vers le haut avec des contenus culturels, etc. Et en même temps, quand tu descendais dans le hall de France Télévisions et que tu voyais dans les gens qui attendaient pour les tournages en public, la réalité du public,
ouais.
Mais on était à mille lieues, c'est-à-dire que tu avais des gens qui produisaient les programmes qui sortaient de Normal Sup. Et derrière, t'avais une dame qui avait fait 2 heures de train et qui avait son détective, je sais pas si ça existe encore, détective, sa petite revue d'enquête, tu vois, sous le bras. Mais bon, c'est comme si aujourd'hui d'écouter un podcast avec Ondelat, tu vois. Et c'était ça la réalité, et t'es obligé de le dire. Et donc, la réalité aujourd'hui, c'est que non seulement c'est un média de masse et que du coup, il faut s'adapter si tu veux y être, et en plus, les gens vont accorder plus facilement leur confiance à des gens dont ils pensent qu'ils se la pètent pas, qui sont pas, qui dépensent pas une tonne de fric en marketing, mais qui sont capables de délivrer un message effectivement de manière naturelle. Après, ça veut pas dire qu'on soit pas complètement quali. Faire un truc avec son téléphone et de manière spontanée, c'est pas forcément tout pourri et tout pété non plus.
Bien sûr.
Par exemple, toi, quand tu as fait tes essayages la semaine dernière à ton showroom atelier slash tout, il y avait des moments certainement qui étaient très, très sympas à montrer de manière naturelle et spontanée avec des clientes qui essayaient, qui parlaient du vêtement elle-même, etc. Je pense que les essayages d'Alice avec son petit bump c'est très sympa aussi, tu vois. C'est pas la peine de chercher beaucoup plus loin que ça.
Bien sûr, on est d'accord.
Et puis, en plus, si tu donnes des vrais bons conseils, des astuces, de l'inspi, alors par exemple, tu vois, je repense à ça, c'est-à-dire que Alice, là, je l'avais vue dans une de vos vidéos en train de montrer comment elle pouvait porter les vêtements en étant enceinte. Tu vois, pour le coup, c'est un vrai contenu, c'est un vrai plus, en fait. Tu te précipites pas, hein, pour acheter des vêtements de grossesse que tu remettras jamais. Donc, plus longtemps tu peux utiliser tes vêtements à toi, mieux c'est. Et bon, donc du coup, il faut pas oublier aussi l'usage, hein, parce que en fait, il y a eu, alors tu demanderas sûrement à des experts qui passeront après moi ce qu'ils en pensent, mais je vois que l'usage des hashtags se perd. En fait, les hashtags, ça maximise et ça optimise en fait tes contenus. Et moi, je recommande quand même d'en avoir un certain nombre, les siens propres, le sien propre. Et puis de mélanger des hashtags qui sont extrêmement en compétition, encore une fois, masse, et des hashtags qui sont de longue traîne. Donc là, encore une fois, la clé, c'est la cohérence et le quali plutôt que le quanti. Et encore une fois, ben, vaut mieux poster 4 à 7 fois par semaine que de se dire que je le ferai de temps en temps. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup des gens que j'accompagne qui me disent « Ah ouais, mais ça prend trop de temps. » Et moi, j'ai pas le temps de faire tout ça, on n'est que 2, on n'est que 3, on n'est que 7. Et puis les autres, ils sont occupés à ci, à ça. Moi, je veux bien entendre ça, mais ton métier, si tu fais du e-commerce, et c'est de faire du contenu aussi. En fait, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout a un prix. Et là, le prix, c'est juste du temps. Mais si tu préfères payer quelqu'un pour... Enfin, tu peux payer quelqu'un pour le faire aussi. Hein. Mais si tu veux aussi, si tu as de l'argent, par contre... tu peux aussi faire des Reels Ads. Tu connais ça ?
Non.
Bah, c'est pareil. C'est des pubs qui ressemblent à des Reels. C'est sponsor. De manière subtile, juste en bas. Donc, tu peux les sponsor auprès de ton public cible. Donc, ça, c'est payant et c'est assez efficace. D'ailleurs, les Reels ont en fait une efficacité supérieure à tout ce que tu peux faire en story, en live, j'adore le live d'ailleurs, et à ton feed, parce que c'est le seul endroit où Facebook, Instagram, va proposer les Reels à des gens qui ne sont pas dans ta cible, il va les proposer à tout le monde, puisque c'est classé par topic. Donc si tu choisis les bons topics, tu vas être exposé à des gens qui ne te connaissent pas.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que TikTok vient de dépasser Instagram, Facebook en termes d'utilisateurs, oui. Et que donc Instagram, Facebook et Meta est dans une course contre la montre pour rattraper son retard et rattraper TikTok. Et donc c'est open bar sur les Reels, quoi. J'ai l'impression.
Bah oui, ils le favorisent, mais ils le disent, hein, ils le disent sans phare que ils favorisent ce genre de short vidéo. Donc c'est toujours pareil, tu peux lutter, mais si c'est la règle et que tu veux être là-dessus, ou tu choisis de pas y être, ou tu choisis d'y être en jouant les règles. Si tu choisis d'y être sans jouer les règles, tu passes à côté en fait. Et après, tu peux pas ne pas t'étonner que ça fonctionne pas.
Ça sert à rien de se battre contre Facebook.
Ah, ça non. Mais en ce moment, il y a plein de gens qui pronostiquent la fin de Facebook. C'est vrai, écoute, Facebook, ils font 25% de leur chiffre d'affaires en Europe. Là, t'as entendu, Zuckerberg, il a dit, ouais, moi, je ferme l'Europe, ras-le-bol, si je peux pas mettre mes cookies partout. Ok, mais lui aussi, hein, il est en danger. Hein. Il y a plein de gens qui disent qu'il va crise de devoir céder sa place à la tête de Meta. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Mais en attendant, ils sont loin d'être morts. Donc, et on n'a pas tant d'outils que ça, hein, effectivement, d'acquisition payante. Donc, on fait avec. Mais bon, puisqu'on parlait de vidéo, on va parler aussi de live streaming. Donc, la live streaming, c'est une vidéo qui est enregistrée. C'est une vidéo qui permet de parler. Contrairement à une vidéo enregistrée, hein, parce que tout ce dont on parle, là, ce sont des vidéos qui sont pré-enregistrées, et donc il y a toujours une barrière avec le public. Tandis qu'avec le direct, eh ben, on peut interagir, on peut parler directement, et donc c'est beaucoup plus puissant quand tu veux établir, encore une fois, une relation de confiance.
Ouais.
En plus, tu vois les commentaires. Donc, si tu cites quelqu'un en disant « Tiens, merci, merci Adrien, oui, je vais répondre à ta question tout de suite », forcément, tu crées un lien hyper personnel. Il va vraiment sentir une connexion personnelle avec toi et ton business, bien plus que s'il regarde passivement plusieurs vidéos. Mmh. Donc, en plus, il passe généralement 4 fois plus de temps sur un live que sur une vidéo enregistrée. C'est un raccourci pour obtenir de l'attention. Mmh. Là-dessus, encore une fois, il n'y a aucune attente du public en termes de production. Vraiment. Donc, il ne faut vraiment pas se prendre la tête. Et le cadre un peu sympa, tu évites de le faire dans ton lit, un bon micro, il n'y a pas de post-prod, ça peut être totalement improvisé. J'ai plein mal de clients qui me disent « Ouais, mais non, mais je l'ai fait une fois, mais il y avait 5 personnes. » Mais c'est bien, 5 personnes. Hein, prof de yoga, il m'a raconté un truc. Quand il est devenu prof de yoga, il a loué une salle, il a fait des annonces et le premier cours, il n'y avait personne. Deuxième cours, il s'assoit, il est en tenue, il n'y a personne. Bon, cinquième cours, il y a une personne qui vient, il lui fait son cours 1, comme s'ils étaient 30. La fois d'après, elle vient avec 4 copines. Maintenant, il a plus de 100 personnes à ses cours. Okay, donc, c'est comme tout, en fait. Patience. Donner des rendez-vous. Alors, évidemment, t'en as qui font des lives. Ah bah tiens, je le fais, hop, j'ai un truc à dire, je commence mon live. Non, donner rendez-vous pour vos lives. Préparer votre public. En plus, maintenant, il y a la possibilité, effectivement, de prévenir, de donner rendez-vous. De prendre les questions 48 heures à l'avance et des afficher en bannière dans les lives.
Et là, quand tu parles de
live... Et rediffusez-les.
Ouais, quand tu parles de live streaming, c'est toujours sur
Alors, ouais, tu peux le faire effectivement, tu peux même le faire sur LinkedIn, j'ai pas l'impression que ça marche très très bien. Tu peux le faire sur la plupart des plateformes maintenant, et tu peux aussi choisir de te rajouter une API de live streaming sur ton site, et tu vas donner rendez-vous aux gens sur les réseaux sociaux. Là, du coup, la vidéo est native chez toi, ce qui est encore mieux. Franchement, il y a des bonnes solutions. Il y a Firework qui est vachement bien, qui est comme un studio justement intégré, où tu vas pouvoir faire plein de short vidéos, tu vas pouvoir faire des lives, et tu vas pouvoir, surtout, quand tu fais tes lives, tu les fais natifs sur ton site, ce qui est toujours bien, et tu peux les diffuser en même temps sur les réseaux sociaux. Mais t'es chez toi. Donc ça, c'est vraiment des options qu'il faut regarder de très très près.
T'as des noms de plateformes ?
Ouais, je te dis Firework, c'est très bien.
Ok.
Ouais, c'est des cadors de la Silicon Valley qui ont créé ça. Dans l'équipe, il y a le mec qui a créé justement l'appli mobile de LinkedIn. Ils sont extrêmement bons. Mais il y en a en France aussi. Il y a plein de solutions. Moi, j'aime pas trop donner des noms parce que après, oui. Je suis envahi par les vendeurs de solutions. Du coup,
ouais, ils peuvent venir sponsoriser Entreprendre dans la mode s'ils le souhaitent.
Ouais, et puis aussi, si tu repères que tes clients te posent pas mal la même question, souvent la même question, en fait, bah justement, tu peux en faire un sujet. J'ai une cliente qui fait pas mal de qui est dans la cosmétique naturelle. Et elle a pas mal de questions autour de est-ce que je peux les utiliser pendant la grossesse. Bah là, tu vois, typiquement, tu récupères toutes les questions et tu fais venir une dermato avec toi ou etc. Et vous répondez aux questions. Et ça, c'est de la vraie valeur ajoutée. Tu vends rien, mais tu donnes du service et en même temps, tu parles de tes produits. Bon, bah, c'est vraiment très cool.
Trop bien.
Après, l'autre truc qui est dans lequel c'est même plus une tendance non plus, hein, mais il y a encore beaucoup de place, c'est l'audio, donc le podcast. Bah, tu le sais, hein, toi, peut-être que tu peux en parler mieux que moi, hein. Mais il y a encore beaucoup de place. Bon, évidemment, ça... ouais, bien sûr, t'as pas envie de révéler le truc, mais y a une étude médiamétrique qui est sortie. Début 2022, il y avait 5,5 millions d'auditeurs de podcasts en France. Ils étaient 4-6 en 2020. Mmh. 12 millions si on compte les podcasts qui sont issus d'émissions et de chroniques radio, hein, parce que dedans, il y a beaucoup de rediffusions de chroniques radio. T'as pas envie d'en parler de l'intérêt de...
Non, bah si, on peut en parler carrément. Bah, moi, je suis un. Non, mais tu sais, j'en parlais récemment. Après, je me. C'est toujours pareil, c'est que tu te dis aujourd'hui, se lancer sur le podcast, c'est. Et j'écoutais, enfin, j'en parlais avec quelqu'un qui va sans doute passer sur le podcast aussi, sur la partie acquisition, et qui me posait la question, est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller sur le podcast ou aller sur YouTube ou aller sur TikTok, etc. C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut choisir ses batailles.
Ah oui, c'est que je suis tout à fait d'accord. En fait, il faut aller là où sont ses clients, ça c'est sûr.
Déjà, c'est ça. C'est où sont tes clients.
Oui, très bien.
Et quel est le temps que tu as alloté à ton projet, quoi. C'est qu'à un moment donné, faire ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça prend du temps. Faire un podcast, ça prend du temps. Faire une vidéo TikTok, ça prend du temps. Tout prend du temps. Et donc, à un moment donné, il faut être un peu 20-80 dans son approche. Mais bien sûr, si tes clients sont des gens qui écoutent du podcast, bien sûr que tu as un boulevard. Mais encore une fois, faire sa place sur... tu vois, je disais, voilà, aujourd'hui, Entreprendre la mode, c'est le podcast de référence dans l'industrie de la mode. Tout le monde le connaît dans cette industrie. Je fais 100 000 écoutes par mois. Donc, ça veut dire plus d'un million d'écoutes par an. C'est colossal, c'est gros, mais en fait j'ai commencé il y a 5 ans au moment
où ça se construit lentement.
Personne faisait du podcast il y a 5 ans, en tout cas c'était vraiment il y avait pas grand monde qui connaissait. À chaque fois que j'allais à un dîner de famille, quand je disais podcast, les gens enfin savaient pas ce que c'était. Aujourd'hui c'est devenu mainstream et les gens connaissent. Et donc ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui je fais 1 million d'écoutes par an parce que j'ai 360 épisodes. Et que chaque semaine depuis 5 ans je poste un putain d'épisode.
L'avantage c'est que ça reste par rapport YouTube et le podcast, ça reste dans le temps, ça s'archive, et donc les gens ça s'archive pas, justement c'est toujours vivant, contrairement à des réels c'est poubelle en fait. Donc voilà.
Et en tout cas c'est vrai que le podcast, c'est sûr que c'est un temps d'écoute long, tu rentres en profondeur, tu donnes du contenu d'hyper bonne qualité, tu as le temps de t'exprimer, etc. Les gens, c'est un format qui est extraordinaire. Et voilà.
T'as raison de dire que c'est pas pour toutes les marques, parce qu'il y a des cibles, il y a des cibles qui n'écoutent pas de podcast, qui sont pas intéressées par ce média, parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais par exemple, des customer discovery, ce que j'ai compris aussi, c'est que, par exemple, souvent, les mamans qui accompagnent leurs enfants à l'école le matin en voiture, elles aiment bien leur mettre des podcasts pour enfants. Donc si vous êtes une marque pour enfants, vous pouvez créer des contenus, voilà, ou pour le soir par exemple, pour le soir, pour endormir les enfants, la petite histoire du soir, pourquoi pas, des contenus qui s'écoutent en famille. Ça peut être une bonne idée. En tout cas, il reste de la place. Ça va être, c'est long à construire une audience, mais comme tout, hein, il y a peu de choses qui se construisent.
Il n'y a pas de shortcut, il n'y a pas de raccourci. Hein.
Mais c'est un outil très puissant. Après la vidéo, quand même, je pense, aujourd'hui. Et puis surtout, moi, je vois l'intérêt du podcast par rapport à la vidéo, c'est que tu peux faire autre chose en même temps. Donc en fait, tu accompagnes les gens dans leur quotidien. Ils peuvent aller faire un jogging, ils peuvent faire le ménage, ils peuvent faire autre chose. Et du coup, ils ont une voix familière. Et ça, je pense que tu le sais, Adrien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent très très bien ta voix, qui t'ont jamais vu, qui savent pas à quoi tu ressembles, mais qui connaissent parfaitement bien ta voix et qui ont l'impression de te connaître et qui sont très familiers avec toi. Parce qu'en fait, tu les accompagnes depuis longtemps. Et ça c'est assez unique. Donc aussi, si tu ne veux pas te lancer dans le podcast, bah, tu peux faire comme moi, tu peux te faire inviter dans un podcast.
Exactement.
Voilà, en tant qu'expert. Qu'est-ce que tu peux faire aussi, et ça moi je trouve que c'est sous-exploité aujourd'hui, c'est sponsor un podcast, parce que ça coûte pas cher, franchement. Aujourd'hui, devenir sponsor, alors il y a très peu de gens connaissent ça, alors ça c'est vraiment le tips du jour, alors merci de me dire si ça vous a été utile, faites-moi un retour là-dessus. Mais Spotify Ads, t'as une version gratuite Alors pas gratuit pour faire tes ads, hein, mais pour créer tes ads. Hein, donc, ça s'appelle le Ad Studio. Donc, regardez, okay. Tapez Ad Studio de Spotify. La prise en main, c'est super simple. En gros, tu décides de ton offre. Donc, comme je viens de le dire, tu es une marque pour enfants et tu vas targeter soit les mamans, soit les enfants directement. Tu vas écrire ton script, environ 30 secondes, un script, hein, avec un call to action. Soit tu l'enregistres toi-même, soit tu demandes à ce que ce soit une voix de Spotify, ça ne coûte pas plus cher, soit ce que ce soit lu par l'host du podcast. Ensuite, tu choisis une zone géographique. Enfin, tu peux choisir. Il y a un targeting, en fait, Spotify. C'est assez basique. Tu n'as pas beaucoup de choses. Hein. Tu as l'âge, la géolocalisation, le genre et les centres d'intérêt. Mais les centres d'intérêt, c'est vraiment supra basique, sauf si c'est vraiment... tu fais ta marque de yoga et tu t'adresses au podcast développement personnel. Voilà, c'est à peu près ce que tu peux faire. Et en fait, ça coûte que quelques centimes. C'est rémunéré en fait au clic, quoi. Et donc ça, par contre, faut penser à optimiser son site en Google Search Traffic, hein, sinon ça ne marchera pas si vous faites de la géolocale. Et donc associer sa marque à un contenu qui lui correspond, à qui correspond à ses centres d'intérêt, avec un message qui correspond au moment où elle écoute. Ça va créer une connexion super, super positive. Et tu peux même ajouter un petit jingle, une musique. Et ça, on n'oublie pas que le jingle, c'est aussi quelque chose qui permet de mémoriser la marque.
Bien sûr.
Ça permet d'atteindre les gens là où ils sont, sur leur smartphone, parce qu'ils passent leur journée dessus. Ça permet d'atteindre des auditeurs qui sont actifs, parce qu'ils sont sur leur temps de trajet, du bureau, nanana. C'est sans écran. Et parfois, c'est même au moment où ils s'endorment. Et là,
ça, c'est
fort. Hein, quand on est sur... j'ai toutes les apps de... sophrologie, détente et autres. Hein. Bon, je ne donne pas de nom. Voilà. Et je crois que le premier prix de campagne, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être 250 euros. OK ? Donc, encore un truc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je crois que c'est bien, là, déjà. Hein. C'est pas mal, non ?
Ouais, là, tu as donné pas mal de tips hyper intéressants, hein, c'est sûr.
Donc, écoute, j'espère que les suivants ne me contrediront pas trop.
Aussi généreux que toi.
Mais, et des vrais tips aussi. Ouais. C'est important de s'entraider. C'est important de collaborer les uns avec les autres.
Ouais.
Je trouve que de ce point de vue, les Anglo-Saxons arrivent quand même à être assez généreux les uns avec les autres parce que contribuer à la croissance des autres, c'est contribuer à sa propre croissance.
Bien sûr.
Donc si vous avez des tips, vous aussi, auditeurs,
oui.
Eh ben, remontez-les, on sera ravis de les partager. Adrien sera ravi de les partager dans les autres épisodes qui vont suivre.
Exactement, n'hésitez pas.
Ouais.
Merci infiniment, Viviane, c'était encore un épisode très riche. Good luck pour le lancement de ta.
Abonnez-vous. Et quand je dis abonnez-vous, alors, parce que moi j'ai besoin d'avoir 100 abonnés minimum pour avoir un short, je trouve pas le mot, c'est bien la fin, tu vois, je suis un peu. Mon adresse raccourcie, en fait, j'ai besoin de 100 abonnements. Pour avoir son abonnement, il faut qu'il y ait 100 personnes qui cliquent sur la cloche. Mais les gens ne comprennent pas que abonner, c'est cliquer sur la cloche. Adrien, tu vas cliquer sur la cloche ?
Oui, je vais cliquer tout de suite.
Merci beaucoup.
YouTube.
Bon. Chers auditeurs, cliquez sur la cloche de Donut & Humans. Merci beaucoup du fond du cœur.
Ouais. Donc ça, c'était un instant promo. Je vais faire ma petite promo aussi. N'hésitez pas à mettre une étoile sur Apple Podcast et aussi maintenant sur Spotify. Vous pouvez même laisser un commentaire à la fois sur Spotify et sur Apple Podcast. Et ça fait toujours plaisir parce que je les lis tous.
Fait plus que plaisir, ça fait remonter dans les algorithmes et c'est hyper important. Et c'est vrai que nous, on vous donne du contenu, mais on n'a pas de retour. On est aussi un peu à l'aveugle et donc c'est une manière de nous encourager à vous en donner toujours plus. Et c'est des contenus gratuits, n'oubliez pas. Donc allez-y, likez, commentez, abonnez-vous. C'est la seule moyen qu'on ait, nous, de savoir que vous appréciez ce qu'on fait.
Ok, bon, je suis abonné à Donut & Human.
Yes!
Officiel, tu as 35 abonnés à présent.
Voilà, plus que 65.
Allez, bonne soirée.
Ciao, bye Adrien.
Ciao.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com. Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme @entreprendredanslamode. Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.